Dans un précédent numéro du grand journal politique de Sans Langue de Bois, Thibault, tu abordais la question du mariage pour tous. Tu n'es pas sans savoir que le projet de loi Taubira a été adopté le mardi 12 février après 110 heures de débat et l'examen d'un nombre impensable d'amendements. Que reste-t-il de ces 110 heures de débat? C'est l'enquête de la semaine.
Si Hercule avait à accomplir en 2013 ses 12 travaux, Marie-Ève, eh bien gageons que dans la liste, plus éprouvant que le nettoyage des écuries d'Augias, plus délicat que la chasse de la biche au pied d'airain, plus dangereux que l'affrontement avec l'hydre de Lerne ou le lion de Némée, ou les deux réunis, serait incluse la participation au débat parlementaire à propos du mariage pour tous.
Oui Thomas, même si tu exagères un peu, c'est effectivement un vrai marathon pour rester en Grèce antique.
Alors les députés n'ont en effet pas chômé, Marie-Ève, pour devenir sérieux. 10 jours de débat, soit 110 heures de discussion, réparties sur 24 séances, 5166 amendements déposés par l'opposition bien décidés à débattre et à en découdre. Accusé de faire obstruction par la ministre de la Justice elle-même, porteuse du projet Christiane Taubira.
Pour autant, si l'on se replonge dans les archives de l'Assemblée nationale, il y a eu pire.
Oui, le débat sur le mariage pour tous est en effet loin d'égaler, Marie-Ève, le débat autour du projet de loi sur la presse. Alors flashback, on est entre le 15 décembre 1983 et le 13 février 1984. Les députés avaient alors débattu pendant 166h50, le temps de 20 séances. De même, concernant le nombre impressionnant d'amendements déposés par l'opposition, 5367, on est très loin des 137 665 amendements déposés en septembre 2006 lors de l'examen du texte sur l'énergie. Et à l'époque, Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, s'était fait prendre en photo, encerclé par des murs de papier qui occupaient presque intégralement son bureau.
Mais l'opposition n'a pas utilisé que ces 5166 amendements afin de ralentir la procédure législative. Elle a aussi eu recours à des rappels au règlement.
Oui, et à ce jeu-là, c'est Hervé Mariton, le député UMP de la Drôme, célèbre pour ses pulls colorés, qui s'est illustré. Prévu à l'article 58 du règlement de l'Assemblée nationale, le rappel au règlement, Marie-Ève, eh bien, il permet aux députés de prendre la parole pendant 2 minutes de façon prioritaire, et de suspendre ainsi la discussion en cours. Et pendant tout le débat à l'Assemblée sur le mariage pour tous, eh bien, il y a eu 241 rappels au règlement et 54 suspensions de séance, ce qui correspond à 14 heures de discussion sur les 110 au total quand même.
Eh oui, une bataille parlementaire que certains jugeront à la mesure du changement permis par celle que l'on peut donc désormais nommer la loi Taubira.
Oui Marie-Ève, ouverture du mariage aux personnes de même sexe, possibilité pour un couple homosexuel de faire une demande d'adoption à deux, ou que le parent social, c'est le terme, adopte l'enfant de son conjoint, et également la transmission patronymique, voilà l'égalité permise par le mariage pour tous.
Oui Thomas, tu parlais de transmission patronymique, mais qu'est-ce que c'est ?
Ah oui Marie-Ève, t'as raison, c'est un point qui a été ajouté très peu de temps avant que le projet de loi arrive devant les députés. Jusque-là, un enfant pouvait porter le nom de sa mère, de son père ou des deux. Et en cas de désaccord entre les parents, notamment quand il y avait un divorce, c'était le nom du père qui était attribué. Désormais, en cas de désaccord ou d'absence de choix des parents, les noms de chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique, seront donnés à l'enfant.
Ben merci Thomas pour cette précision, peut-être utile à nos chers auditeurs. Une vraie bataille parlementaire donc, de nombreux clashs relayés dans tous les médias, et même un fou rire nerveux signé Christiane Taubira. Et tout ça, pourquoi ?
La question finalement Marie-Ève, c'est « et si les 110 heures de débat n'avaient servi à rien ?» C'est ce que le député Front National Gilbert Collard déclarait dès le mardi 12 février au matin même sur iTélé. On l'écoute au micro de Christophe Barbier.
Ça fait des semaines, des jours qu'au Parlement, on parle pour n'être jamais entendu. Rendez-vous compte que ça ne change rien. Les débats sont cinématographiques. Il n'y a pas une modification d'une virgule dans le texte. On a une majorité qui est militaire, qui n'entend rien, qui avance, qui ne retient aucun argument, qui n'a rien à foutre de l'opposition, rien à faire.
Avec son franc-parler, alors Gilbert Collard a-t-il eu raison, Thomas ? À quoi ont servi ces 110 heures de débat ? Le texte a été adopté, et ce sans surprise, puisque le gouvernement dispose à l'Assemblée d'une majorité nette.
Et contrairement à ce qu'affirme Gilbert Collard, Marie-Ève, le texte a été modifié. Mais le projet de loi n'en est pas fondamentalement bouleversé pour autant. Hein, parce que sur les amendements dont on parlait, plus de 5000 déposés dans l'hémicycle, 17 seulement ont été adoptés par les députés. Et sur les 17, 14 venaient de la majorité et 3 de l'opposition. On le voit bien au bout du compte, ce ne sont que 500 mots qui ont été ajoutés en comparaison avec le projet de loi initial. Autant dire qu'on est vraiment loin de la révolution, Marie-Ève. 110 heures pour écrire 500 mots, comme quoi on a effectivement un sérieux problème de productivité en France.
Donc ça veut dire que Gilbert Collard a raison.
Eh ben non, Marie-Ève, même minime, les changements doivent être pris en compte. Par exemple, grâce à l'amendement numéro 17, déposé par plusieurs députés UMP, dont Hervé Mariton, dont on parlait tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, Benoît Apparu et Philippe Gosselin, les futurs mariés, grâce à cet amendement, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ben oui, mariage pour tous, hein, pourront désormais, s'ils le souhaitent, s'unir dans la ville de résidence d'un de leurs parents, alors que jusqu'ici, légalement, ils ne pouvaient célébrer leur mariage que dans leur propre commune de résidence. Et les députés UMP d'évoquer, pour justifier cet amendement, des motifs à la fois d'ordre sentimental et pratique.
Oui, enfin, on est un peu dans le détail là, non ?
Bon alors, plus important, pour te faire plaisir, Marie-Ève, l'amendement Biné sur le parent social. En attendant le projet de loi sur la famille qui devrait combler le vide juridique du beau-parent, l'amendement 5255, pour les notes, déposé par le rapporteur socialiste du projet de loi, Erwan Binet, donc, donne la possibilité au juge d'intervenir en cas de séparation d'un couple. Et ce, dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Concrètement, un juge pourra prendre des mesures permettant aux parents dits « social » de maintenir une relation avec l'enfant biologique de son ex-conjoint, avec qui il a noué des liens affectifs durables, selon le texte de l'amendement même, et qui a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, je cite toujours. Rappelons qu'aujourd'hui, légalement, en effet, le beau-parent non marié avec le père ou la mère biologique n'a aucun droit sur l'enfant en cas de séparation ou de décès de son conjoint. Et cet amendement, Marie-Ève, c'est quand même loin d'être du détail.
Je crois que t'as raison, Thomas. Et quoi d'autre alors ?
Alors on peut citer également l'amendement 4405 qui vise à lever les difficultés que les familles homosexuelles connaissent aujourd'hui pour adhérer à l'Union nationale des associations familiales ou à toute autre structure représentative des familles, et ce afin d'y être officiellement représentés et surtout, très important à mon sens, l'amendement 4361 qui vise à remplacer les mots « célébrer publiquement devant » de l'article 165 du Code civil par les mots « prononcer lors d'une célébration publique et républicaine par ».
Et alors, qu'est-ce que ça change ?
Et alors, Marie-Ève, il s'agit là, à mes yeux, de l'amendement le plus important adopté et qui implique une évolution de taille qu'il ne faut pas sous-estimer. Puisqu'en effet, il vise à introduire dans le Code civil l'affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage. Le mariage civil, il illustre effectivement à plusieurs titres les valeurs républicaines. Il est d'abord une liberté, droit de se marier, droit de refuser le mariage, droit de choisir son conjoint. Il est aussi, depuis la Révolution française, une institution laïque. Le rite civil qui l'entoure en atteste, la cérémonie du mariage devant le maire, agissant en sa qualité d'officier d'état civil, dans une salle de la mairie, portant l'effigie de la Marianne, symbole de la République, en est le reflet. Valeur fondamentale, cette laïcité, rappelée par l'article 1er de la Constitution.
Et donc il était nécessaire de le rappeler ici encore.
Oui, Marie-Ève, parce que rappeler la valeur républicaine de la célébration du mariage, c'est répondre à toutes ces polémiques idiotes entendues dans la rue et relayées à trop grand trait dans les médias. Le mariage pour tous ne va pas à l'encontre d'une religion, quelle qu'elle soit. Le mariage pour tous n'est pas non plus le privilège de quelques-uns. Le mariage pour tous, ce n'est pas non plus une affaire de sentiment, comme si on se mariait de tout temps par amour, comme si la loi faisait dans l'affect. Non. Le mariage pour tous, c'est la République qui décide de reconnaître et de protéger, à égalité, tous ces hommes et ces femmes qui, rappelons-le s'il en est besoin, sont nés libres et égaux en droit, et qui, avant d'être hommes ou femmes, grands ou petits, riches ou pauvres, hétérosexuels ou homosexuels, sont des citoyens et des citoyennes. Le mariage pour tous, Marie-Ève, c'est la République qui protège ses enfants, leur avenir, et veille à ce qu'ils soient élevés dans les mêmes et la meilleure situation. Quelles que soient les conditions matérielles, sociales, géographiques et familiales de leur éducation, pour tous, le mariage qui définitivement la sphère de la religion, à laquelle il n'appartenait plus d'ailleurs depuis la Révolution, puisque depuis 1791, il faut le rappeler, si en France le mariage religieux est possible, il n'a aucune valeur légale.
Bon, ta grande déclaration d'amour pour le mariage pour tous, Thomas, elle est un
pour
peu lyrique.
Pour la République.
Pour la République surtout. Mais finalement, tout à fait de circonstance, puisque ces 110 heures de débats intenses ont également permis à une femme politique d'acquérir une stature importante. Et ce, pour ses discours, ses envolées lyriques, elles aussi, son charisme et sa détermination. Et cette femme à laquelle tu vas maintenant rendre hommage, c'est Christiane Taubira.
Oui, en disant que sa cote de popularité à Christiane Taubira, eh bien, elle explose. Dans le baromètre politique BVA Orange, tu feras de l'hommage autre part, mais là, c'est un fait. En février,
c'est un hommage public.
Un hommage public, oui. En février 2013, elle, dans ce sondage réalisé pour la presse quotidienne régionale, France Inter et L'Express, eh bien, la ministre de la Justice regagne 14 points en un mois, c'est spectaculaire. Elle grimpe 17 marches d'un coup dans le palmarès des personnalités politiques préférées des Français, passant de la 22e à la 5e place.
Et en parlant d'hommage à gauche, c'est carrément la Taubira Mania. La garde des Sceaux gagne 25 points auprès des sympathisants de gauche, devenant de loin leur personnalité politique préférée.
Oui, et puis je vais bien lui rendre hommage quand même, tu t'en doutes. Ça faisait longtemps, Marie-Ève, que l'on n'avait pas eu un garde des Sceaux de cette dimension. Avant Christiane Taubira, du plus récent au plus lointain, il y a eu à ce poste Michel Mercier, qu'on avait déjà oublié, Michel Alliot-Marie, qui n'a pas brillé par son efficacité, Rachida Dati, qui fut certainement la garde des Sceaux la plus critiquée par le monde de la justice lui-même, du fait de la réforme de la carte judiciaire que d'aucuns, de tous bords confondus d'ailleurs, jugent depuis mal ficelée et mal menée. Cela faisait donc presque 10 ans, si on compte bien, que nous n'avions pas eu un garde des Sceaux de la trempe d'une Elisabeth Guigou, par ailleurs première femme à occuper ce poste, ou d'un Dominique Perben. Et évidemment, comment ne pas penser dans cette liste à Robert Badinter, garde des Sceaux de 1980 à 1986, révélé lui aussi par un autre sujet de société, certes plus fondateur et fondamental, l'abolition de la peine de mort.
Oui, mais enfin, excuse-moi de t'interrompre, si on résume maintenant 110 heures de débat, 17 amendements, 500 mots, des changements importants mais pas fondamentaux, et une garde des Sceaux entrée dans l'histoire. Reste à savoir si elle y restera aussi, et surtout ce que l'on retiendra dans 100 ans de tout ça.